Bon, on va aujourd'hui revenir un peu en arrière sur le catholicisme. Parce que finalement, c'est la question des saints et la question du salut d'une manière générale. Salut par la foi ou salut par les œuvres. Parce que finalement, vous savez que c'est une des parades du catholicisme aujourd'hui, que de prétendre que finalement il a toujours contesté le salut par la foi. Et précisément, je crois qu'il est bon de creuser un petit peu la question d'une manière plus profonde. Alors, tout d'abord, dans le prolongement de notre réflexion sur la Vierge Marie, nous allons aborder une première question, celle justement des saints. Dans la mesure où les saints sont présentés comme des médiateurs entre le croyant et le Seigneur. Je crois que la première remarque que l'on peut faire, c'est que cette définition d'un saint, ou des saints d'une manière générale, s'heurte immédiatement à 1 Timothée 2, verset 5, où l'apôtre Paul nous dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc déjà, rien qu'à ce niveau-là, il y a un premier problème. Pour Rome, au contraire, il n'y a pas un seul médiateur, mais il y a de nombreux médiateurs qui ne sont pas évidemment désignés comme des médiateurs, car les catholiques, les théologiens catholiques connaissent quand même 1 Timothée 2, 5. Par contre, ils sont présentés comme des intercesseurs. Nous avons déjà vu que c'était un des rôles que Marie remplissait. Mais elle n'est pas la seule. Marie est la tête, le sommet de ce que nous pouvons appeler le panthéon catholique, mais en dessous d'elle, il y a des intercesseurs d'un rang quelque peu inférieur, mais qui n'en ont pas moins un rôle souvent précis et souvent spécialisé. Qu'est-ce que c'est qu'un saint? Quelle est la définition que Rome nous donne d'un saint? C'est un personnage, homme ou femme, qui a mené sur la terre une vie particulièrement exemplaire, qui a été, à cause de ses mérites, revêtu d'un certain nombre de grâces particulières, qu'il a déjà pu, de son vivant, faire partager avec ses contemporains, et qu'il continue à distribuer après sa mort. Ce qui est important, justement, dans la définition que le catholicisme donne du saint, c'est que c'est un personnage qui continue à agir au-delà de la mort. Les grâces dont le saint était revêtu pendant sa vie terrestre étaient souvent, d'après la définition catholique, de nature que nous pourrions appeler charismatique entre guillemets, dans ce sens que les saints étaient souvent des faiseurs, sont souvent des faiseurs de miracles. Et précisément, la marque de la vraie sainteté pour Rome, c'est justement la capacité de faire des miracles de son vivant, et surtout si ces miracles-là se poursuivent après la mort. Car il ne suffit pas de faire des miracles de son vivant pour être saint. Là, il y en aurait pas mal, mais il est surtout indispensable de continuer à faire des miracles après sa mort. Alors là, évidemment, quand on continue après sa mort à faire des miracles, c'est sûr qu'on est un saint. Là, il n'y a aucun problème, aucune hésitation possible, immédiatement. Là, il y a des preuves sérieuses. Seulement, pardon, comment ils font pour faire des miracles après la mort? Eh bien, tout simplement, en ceci, c'est que dans les lieux où ils ont vécu, par exemple, ou à leur tombeau, c'est souvent c'est dans leur tombeau, il y a des personnes qui vont prier sur le tombeau de quelqu'un qui est réputé comme saint, automatiquement, il y a des guérisons, il y a des choses extraordinaires, il y a des exaucements à des prières qui ont été adressées. Bon. Oui, justement, on va y venir dans quelques instants. Enfin, toujours est-il que il doit y avoir des faits tangibles qui prouvent que nous avons affaire à un personnage qui sort de l'ordinaire. Maintenant, il faut que l'authenticité de ces preuves soit vérifiée. Et bien entendu, c'est Rome qui a le dernier mot dans l'affaire et qui est capable de déclarer si quelqu'un est véritablement saint ou non. Pour cela, il y a un véritable procès qui a lieu, qu'on appelle la procès en canonisation, qui dure un certain nombre d'années. Rome est très très prudente dans sa manière de canoniser les gens. Et il y a un certain nombre de gens qui sont préposés pour faire des recherches sur la vie du personnage en question. Il interroge des témoins, il fouille des archives, ça dure des années et des années. Et quand il a rassemblé une somme de documentation importante sur la manière dont le personnage a vécu, sur la manière dont il est mort, car d'après la tradition catholique, quand un saint meurt, il y a une odeur particulière qui se dégage, l'odeur de sainteté, et par conséquent, les personnes qui ont assisté à la mort du saint doivent rendre témoignage de cette odeur particulière, d'où l'expression d'ailleurs qu'on trouve encore aujourd'hui dans la pensée populaire, mourir en odeur de sainteté, mais c'est quelque chose à prendre au sens littéral, d'après la tradition catholique, paraît-il qu'il y aurait une odeur de sainteté particulière qui se dégage dans un saint meurt. Bien. Lorsque le dossier est instruit, le procès a lieu. Et alors là, il y a, c'est un procès en bonne et due forme, c'est-à-dire qu'il y a un avocat de la défense et un avocat de l'accusation, l'avocat du diable, qui essaye de trouver le défaut de la cuirasse, qui essaye de prouver que l'individu en question est loin d'être saint, mais de trouver toutes les failles qui dans sa vie peuvent aller à l'encontre de la canonisation. Et puis si après ce réquisitoire émouvant et passionné, les responsables de la canonisation trouvent que l'avocat de la défense a été plus brillant que l'avocat de l'accusation, que les preuves qu'il a apportées sont plus convaincantes que les preuves du contraire, l'individu est d'abord proclamé bienheureux. Alors ça, c'est déjà un premier degré. Il y a deux degrés, en fait, dans la canonisation. D'abord, c'est ce qu'on appelle la béatification. Il est proclamé bienheureux. Bienheureux, ça veut dire qu'il n'est pas au purgatoire, il est au ciel, il vit dans la présence du Seigneur, et déjà, il bénéficie là-bas d'un certain nombre de privilèges en faveur des vivants. Mais c'est encore un saint de deuxième ordre, si je veux dire. Il faut qu'il puisse passer à un stade supérieur. Et là, alors là, c'est la canonisation, soit une forme, qui est proclamée par le pape. C'est une déclaration urbi et orbi, que tout le monde sache que désormais, ce personnage, urbi et orbi, c'est-à-dire public, et que non seulement, par conséquent, ce personnage est monté au ciel, mais il a reçu de Dieu le pouvoir d'intercéder en faveur des vivants. Alors, arrivé à ce stade-là, on peut donc s'adresser à lui, maintenant, à partir du moment où le pape a proclamé qu'il est saint, sa canonisation, on peut s'adresser à lui pour qu'il intercède auprès de Dieu, un petit peu comme on le fait à la Vierge Marie. C'est-à-dire, pour parler franc, pour parler clair, qu'à partir de ce moment-là, il y a un culte qu'il est possible d'adresser à ce saint. Alors bien entendu, comme pour ce qui concerne la Vierge Marie, Rome est très attentif à faire une nuance entre la latrie et la dulie. C'est la terminologie catholique. La latrie, c'est l'adoration. Et d'après la doctrine catholique, manière de faire tombe sous le coup du commandement, du deuxième des commandements, tu n'adoreras pas, soit tu ne te prosterneras pas devant les idoles, les statues, etc. Par conséquent, ce culte-là est illicite d'après la tradition catholique. Par contre, à côté de la latrie, qui doit être le culte qui est rendu à Dieu seul, Il y a la Dulie, qui est elle mystique, qui est un culte mystique, je pense, et qui, alors, c'est une vénération, c'est la vénération. En fait, disons, la nuance, c'est surtout dans les mots. Je crois qu'il faut, voir les choses à ce niveau-là. Oui, et dans les faits et dans la pratique, finalement, ça revient au même. En fait, la nuance serait que le saint intercède plutôt qu'il n'intervient directement en faveur des vivants. En fait, dans la piété populaire, c'est souvent, n'est-ce pas, le saint lui-même qui intervient, et c'est lui que l'on remercie lorsque l'on pense avoir été exaucé après lui avoir adressé une prière. En tout cas, ce qui est certain, c'est que là qu'il oublie, il y a un culte qui lui est rendu. Or, à partir du moment où il y a un culte qui est offert à un autre, quelqu'un d'autre qu'à Dieu, et bien automatiquement, on est en idolâtrie. D'un point de vue biblique, la Bible ne connaît pas toutes les distinctions entre l'acte et l'idolâtrie, mais en fait, la Bible connaît le culte qui est rendu à Dieu seul, et les autres cultes qui sont des idolâtries, qui sont des cultes illicites. Alors, à partir du moment où ce personnage est canonisé, on va développer un certain nombre de pratiques cultuelles autour de ce personnage. D'abord, les images et les statues. Rome fait un grand usage de ce genre de représentation. Et ceci depuis les premiers siècles de l'Église. Quand nous verrons l'époque byzantine en particulier, nous verrons qu'il y a un moment grave, une crise grave dans l'Église, l'Église primitive, qu'on appelle la querelle iconoclaste. En effet, dès les premiers siècles, les images, les statues de représentant le Seigneur, Dieu lui-même et les saints, se multiplient d'une manière telle qu'un certain nombre de chrétiens dans les mœurs reprennent la Bible et déclarent que le culte des images et des statues n'est pas licite d'après la Bible. Et c'est alors qu'une très grave crise éclate dans l'Église byzantine entre partisans et adversaires du culte des images. Après des péripéties extrêmement nombreuses sur lesquelles nous avons l'occasion de revenir, les partisans du culte des images triomphent. Il y a à cette époque-là toute une théologie de l'image qui se fait jour dans l'église de Byzance en particulier, qui reste d'ailleurs le support du culte des images aujourd'hui dans les deux branches de l'église, de la grande église, c'est-à-dire l'église catholique et l'église orthodoxe. D'après cette théologie, l'image représente la personne que l'on invoque, qu'elle représente. À partir du moment où on prie devant une statue de Jésus, par exemple, ou d'un saint quelconque, eh bien, on se trouve en communion d'une manière beaucoup plus directe, beaucoup plus immédiate, avec cette réalité, la réalité qui est invoquée. Alors évidemment, les iconoclastes disent oui, mais le deuxième commandement exclut d'une manière explicite un tel culte, c'est justement l'idolâtrie. Tu ne feras pas de représentation de choses qui sont ici bas dans le ciel, en haut dans le ciel, ici bas sur la terre, ici les eaux qui bas sur la terre. Et on a commencé déjà depuis un petit moment, comme on était un petit peu en avance, mais c'est pas grave. Ben, on va se tirer, hein. Je vais venir là, c'est pas mieux. On avait repris la question des saints, quoi. Parce que je pense que dans le contexte actuel, c'est important. En principe, on avait fini le catholicisme, mais on avait abordé le féminisme, mais là, on a décidé de revenir en arrière un peu pour revoir cette question des saints. Alors, on a juste vu ici la définition. Bernstein, un personnage particulièrement vertueux, qui a acquis des mérites dans sa vie pour soi et pour les autres, et qui continue, après sa mort, à distribuer en quelque sorte ses grâces en faveur des vivants. Nous avons vu que Rome estime mystique de rendre un culte à de tels personnages, un culte qu'elle distingue du culte rendu à Dieu, la Christ, qui apparaît ici comme une bulle, c'est-à-dire un culte de, inférieur, une vénération, mais qui en fait évidemment n'a aucun fondement biblique, et donc surtout de l'interdiction d'offrir un culte à quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre que Dieu. Et nous étions arrivés à cette idée que, à partir du moment où un saint est canonisé, après un procès extrêmement long, il est licite de créer autour de son personnage un certain nombre de rites, et notamment de représentations, statues, images, lettres, etc. D'ailleurs, c'est tout immédiatement, en général, la proclamation de la canonisation d'un personnage quelconque. Automatiquement, il y a immédiatement des images de ce saint qui sont en vente, qui sont montrées à la vie de ce personnage. Or, nous disons que c'est tombé sous le coup du commandement, qu'il ne fera pas de représentation des choses qui sont du bas du ciel. Alors, les partisans du culte des images, on a la querelle byzantine sur les statues, disaient que, dans le fond, ils ne tombaient pas sous le coup du commandement parce qu'ils ne rendaient pas un culte à la statue ou à l'image. Ils savaient bien que l'image et la statue n'étaient que la représentation du personnage, mais non pas le personnage lui-même. Et que la Bible, si on en croit, par exemple, les invectives des prophètes contre l'idolâtrie, ne s'en prenait qu'à des images qui étaient représentées comme ayant une puissance en elles-mêmes. Le fait d'adorer un morceau de bois, ou un morceau de pierre, ou une peinture, ça, disaient les Byzantins, c'est effectivement une idolâtrie, c'est effectivement tombé sous le coup du deuxième commandement. Mais nous ne disons pas que l'image a une puissance, mais qu'elle est le véhicule de la puissance. Elle est le relais par lequel le personnage invoqué, le saint invoqué, se rend présent et distribue ses grâces. Il n'y avait pas aujourd'hui une certaine théologie, à cette époque-là, une certaine théologie pentecôtiste, mais vous avez certains grands évangélistes pentecôtistes qui reprennent un petit peu cette idée en disant que l'objet matériel, c'est pas, on ne dit pas que c'est statique, on ne dit pas que c'est pentecôtiste, on ne dit pas que ça va. Mais des objets matériels, par exemple des morceaux de bois, des torches diverses, tout ça, eh bien, est un point de contact pour la foi. À partir du moment où on entre en contact, soit par la contemplation, soit par le toucher avec l'objet qui représente le saint, eh bien, on entre en contact avec la puissance de ce saint. Et dans la mesure où, effectivement, le saint est quelqu'un qui fait des miracles, qui a une puissance après sa mort, eh bien, toucher l'image, toucher la statue, toucher ou contempler la statue ou l'image du saint, eh bien, c'est se mettre dans une situation où nous pouvons recevoir les grâces que le saint transmet. Peut-être que quelqu'un pourrait l'allumer, peut-être que... En fait, c'est toute la théologie de l'icône. Les Byzantins, c'est-à-dire le rite oriental, les orthodoxes, ont développé encore beaucoup plus loin que les catholiques cette théologie de l'icône. Une théologie que, finalement, on peut démonter très facilement, en disant qu'effectivement, la Bible ne connaît pas cette subtile distinction entre le personnage représenté et la statue qui représente. En tout cas, pour une simple raison, c'est qu'effectivement, les hommes de la Bible n'étaient pas des idolâtres. Ils ne connaissaient pas la pensée des idolâtres. La théologie des idolâtres leur échappait, effectivement. La théologie des statues leur échappait. Mais en fait, lorsque les Grecs, lorsque les Romains lorsque les Babyloniens, lorsque les Assyriens, lorsque les Cananéens se prosternaient devant les statues de leurs dieux. Ils n'avaient pas un instant la pensée que la statue était le dieu. Mais la statue ne faisait que représenter le dieu pour eux. Si on avait interrogé un Cananéen en lui disant « Mais tu te prosternes devant une statue de Baal, mais c'est un morceau de bois ta statue, c'est un morceau de pierre. » Il aurait dit « Mais bien sûr, mais elle représente mon Dieu, et mon Dieu transmet sa puissance par l'intermédiaire de cette statue. » Il aurait dit exactement ce que disent aujourd'hui les catholiques et les orthodoxes concernant leur statue. Il y a aujourd'hui d'autres idolâtres dans le monde. Par exemple, en Inde. L'Inde est un peuple où les dieux païens pullulent avec des statues, etc. Je ne sais pas cette distinction, non, je ne connaissais pas d'une part. Et d'autre part, la vie de passer d'un fait d'une constatation. C'est que c'est vrai quand on plonge, quand on discute avec l'idolâtre, il dira qu'effectivement, il n'adore pas le bois ni la pierre. Mais dans la pratique, c'est la pratique qu'il faut voir. Et c'est sur le plan de la pratique que la Bible se situe. Dans la pratique, c'est toujours la représentation qui gagne. C'est toujours la représentation qui est première. Donc c'est toujours le bois et la pierre qui est premier. D'où justement la matérialisation de plus en plus grande, la ritualisation de tout culte qui est centré sur les images et sur les représentations visibles. Car on ne s'arrête pas là. À partir du moment où on a représenté le personnage que l'on veut adorer, on va développer aussi justement toute cette théologie qu'on voit actuellement apparaître au milieu pentecôtiste ou charismatique. C'est le culte des objets de piété. Tout ce qui a appartenu au saint, tout ce qui a été touché, porté par lui, va être pieusement recueilli par son entourage et va recevoir une valeur. Parce qu'il va être un moyen, un point de contact pour la transmission de la vertu, des mérites et de la puissance du saint. Par exemple, c'est aussi à partir de cette idée, de cette pensée, que le tombeau du saint va avoir une très grande importance. Non seulement le tombeau du saint, mais le corps du saint, notamment ses restes. Là, on rentre en plein un truc assez macabre, mais c'est justement la notion des reliques. Qu'est-ce que c'est que les reliques? Ce sont les restes du corps du saint, ou bien des objets intimes du saint, qui sont les dépositaires de la puissance que ce dernier a acquis par ses mérites. Si bien que celui qui possède les reliques en question, ou qui entre en contact avec les reliques, eh bien, se met en contact avec la source de la puissance du saint. Aujourd'hui encore, toutes les églises catholiques qui sont construites sur des reliques d'un saint quelconque, d'un saint, en général, à laquelle l'église est dédiée. Il y avait, à l'époque du Moyen-Âge, un trafic de reliques assez mouvant, disons, dans ce sens que vous aviez des objets les plus hétéroclites, par exemple les chevaliers au Moyen-Âge aussi avaient des reliques sur eux qu'ils portaient au combat pour se porter bonheur, pour être protégés dans les combats. Dans leur épée, par exemple, il y avait des reliques, une dent de quelques saints. Par exemple, la chanson de Roland, vous voyez comment Roland dit que dans son épée, la fameuse Durandal, il y avait de nombreuses reliques, une dent de ses chaussures, un os du petit doigt de tel autre. Bon. Les reliques, évidemment, les plus cherchées étaient celles des saints les plus vénérés. si on pouvait avoir directement, n'est-ce pas, par exemple, un mouvement Saint-Pierre, alors là, justement, c'est extraordinaire, si on pouvait avoir une des reliques la plus recherchée aussi au Moyen-Âge, c'était les reliques de la Grée Croix. Alors, un petit morceau de bois comme ça, de la Grée Croix, hein, ça, c'était très, très, très précieux, si on pouvait avoir ça. Ça. Donc, et si bien que toutes les reliques de la croix qui sont actuellement dans la maison du monde, de la Grée Croix, si on les rassemblait ensemble, ce serait un arbre, ce serait une forêt. Ces reliques miraculeuses avaient entre autres choses la propriété de se multiplier à l'infini. Je ne sais pas si vous semblez trouver du crâne de certains saints, j'aurais une tête énorme.
Tous les crânes.
Tous les crânes, les jambes, les tibias, etc. Enfin bref. Oui, c'est ça, il y avait des reliques qui étaient vraies, qui étaient fausses, ça donnait lieu à un trafic qui était absolument éhonté. Mais on a un peu mis quelques bémols aujourd'hui à ce genre de choses, mais ça reste quand même dans la piété catholique quelque chose de très très important. Les reliques, n'est-ce pas, ont des images. Il y a des puissants. Il y a quelques années de cela, un an ou deux, très récemment, il avait eu lieu en grande pompe le transfert d'un os du bras, je ne sais plus, ou d'un tibia, de Saint Vincent Ferrier, qui se trouvait ici, donc, dans l'église Saint Vincent Ferrier de Vannes, et qui a été transféré en grande pompe en Espagne. Alors, il y a eu un quart entier d'Espagnols qui sont venus, il y a eu des cérémonies émouvantes et grandioses. Le tibia en question, qui était dans un espèce de tube en verre comme ça, était sorti en grande pompe, exposé à la piété des fidèles, qui ont pu venir le vénérer, qui ont pu venir obtenir des mérites par la vénération de cet objet extraordinaire, qui ont pu transférer en grande pompe là-bas, en Espagne. Aussi une relique extrêmement importante, c'est le fameux linceul de Turin, qui est exposé de temps en temps à la vénération des fidèles, qui peuvent aussi aller de Saint-Suaire, c'est ça, oui, de Saint-Suaire. Alors là, il y a un certain nombre de mérites qui sont acquis par ceux qui vénèrent le Saint-Suaire. Alors, quand on réfléchit, on dit, mais c'est quand même énorme, de ce qui se passe, c'est pas incroyable, mais c'est quelque chose qui va très très vite. Parce que dans les milieux évangéliques et charismatiques, on voit ce que c'est celui-là. Ce sont, par exemple, je vais citer un cas, un grand évangéliste avait prêché, avait fait une campagne d'évangélisation en Afrique, pourquoi il a besoin d'avoir fait des torts, des torts, etc. Demander à tous les pays de venir faire une réunion de prière spéciale dans la chambre de roi ou de sécurité, les apôtres, Elle a commencé à prier, on a posé nos mains sur le top. Elle a dit, mais vous n'avez pas lu que l'apôtre Paul, les linges qui avaient touché la corde de l'apôtre Paul, ils ont les appliqués sur le corps des malades, et les malades étaient guéris. En fait, j'ai terminé, la réunion est terminée, elle a fait son truc, elle a fait le feu, elle a commencé à l'écouter sur l'apôtre Paul. Je les ai envoyés à tous mes partenaires en disant que j'ai prié spécialement pour ce morceau des temps.